Donc moi je vais me présenter vite fait, donc Nicolas Giraud, moi je suis paysan dans le Jura, je suis éleveur de vaches laitières, on a une quarantaine de vaches laitières, les deux à mon frère, on est en GAEC et on produit du lait pour la fabrication de Comté et Morbier dans le Jura. Et donc depuis un peu plus d'une semaine, je suis porte-parole de la Confédération paysanne. J'ai été secrétaire national depuis 2 ans et j'ai pris la place de porte-parole donc depuis quelques jours. Le thème d'entrée des états généraux de l'alimentation, c'était la répartition de la valeur ajoutée. C'était comment est-ce qu'on aboutit à une meilleure rémunération des paysans sans forcément faire peser tout ça sur les consommateurs. C'est-à-dire que c'était pas l'objectif d'augmenter les prix à la consommation. Mais l'objectif, c'était de mieux rémunérer les paysans et de trouver des mécanismes pour ça. Donc, entre les paysans et les consommateurs, il y a la grande distribution et il y a la grande transformation. Donc, en tout cas, nous, l'enjeu qu'on avait évalué, c'était voir comment est-ce que l'État français était capable d'avancer là-dessus. Donc, cette diapo, c'est juste pour vous montrer, la situation actuelle de la part des dépenses alimentaires. Est-ce qu'il revient au monde agricole sur 100 euros qui sont dépensés au niveau de l'alimentation? Et ce qui revient au monde agricole, c'est 6 euros. 6 euros sur 100 qui sont dépensés. Alors, en y mettant les importations. Mais on voit bien que les parties commerce, les parties transformation, les parties services sont plus importantes que les parties qui reviennent à la production. Et ça, c'était la porte d'entrée, le diagnostic d'entrée des états généraux de l'alimentation. Sur tout le monde, enfin sur ce diagnostic, tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas d'enjeu à dénier ça. C'était en accord. Et c'était comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer ça. Un discours de Rungis par Emmanuel Macron qu'on avait salué parce qu'il pointait les bons dysfonctionnements qu'il y a actuellement dans le monde agricole et dans le processus de transformation et de distribution. Après, on pourra en rediscuter, mais ça a été qu'un discours. En tout cas, ça s'est arrêté là. Quand c'est le protocole législatif qu'il y a eu derrière et le débat parlementaire ont remis en cause ce qui avait été mis à ce moment-là. Donc, c'est savoir régulier. Enfin, on s'est interrogé beaucoup et on s'interroge régulièrement, pas que sur ce sujet-là, mais de la capacité de Macron à être fort en communication et à renvoyer ensuite à d'autres, j'allais dire, le sale boulot pour pas que ça change. C'est un petit peu la lecture qu'on a pu en avoir. Et voilà, donc et plus d'un an de travaux pour arriver à, pour nous, pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, donc les indicateurs économiques qui devraient permettre de faire le prix de ce qu'on vend, nous, sortis de ferme, eh ben aujourd'hui, ces indicateurs, ils ont été demandés d'être faits aux interprofessions, aux filières, et dans les filières, ce qu'il faut savoir que siègent les producteurs, mais siègent les transformateurs, siègent aussi les distributeurs. L'État ne siège pas, c'est des instituts de filière, les consommateurs ne siègent pas non plus, la société civile non plus. Et forcément que dans ces interprofessions, c'est un rapport de force pour arriver à discuter de notamment de répartition de valeur ajoutée. Et le rapport de force, il est clairement pas en faveur des producteurs, même s'ils sont regroupés ou organisés. Quand en face, on a des Lactalis, des Bigard, des Auchan ou des Carrefour, quoi. Donc, que l'État renvoie toute la responsabilité de la réussite de la répartition de valeur ajoutée aux interprofessions, c'était quelque part pipé d'avance et c'était, à mon avis, entendu de leur part que ça ne fonctionnerait pas, mais c'est aussi redonner la responsabilité de la réussite ou non aux interprofessions et quelque part, l'État se mouille. Ne se mouille pas beaucoup. Donc ça, c'est ce qui est beaucoup sorti dans la presse à la suite des états généraux de l'alimentation. Si vous avez lu un peu la presse ou écouté, c'est le SRP, le seuil de revente à perte. C'est l'augmentation du seuil de revente à perte qui a été la grande trouvaille des états généraux de l'alimentation. En gros, c'est on redonne de la marge supplémentaire à la grande distribution. En l'occurrence, avant, le seuil de revente à perte était à zéro, c'est-à-dire que ce qu'ils achetaient 100, ils devaient leur vendre 100 au minimum. Et aujourd'hui, après la loi, ce qu'ils revendent 100, ils doivent leur vendre 110. Donc ils font 10% minimum de marge sur tout. Alors ça ne veut pas dire qu'ils font 10% de marge en plus, parce qu'il y a plein d'endroits où ils faisaient moins, il y a beaucoup, aussi plein d'endroits où ils faisaient plus. Donc, typiquement, c'est le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale sur le Nutella, ce qu'ils ont appelé un peu le débat sur le Nutella, c'est-à-dire que sur les produits d'appel style Nutella, ben, les grandes surfaces, ils font 0% de marge. C'est un produit d'appel pour eux, ça leur permet de faire venir les gens dans les grandes surfaces. Et par contre, après, sur les produits bio, notamment sur les fruits et légumes, les produits frais, ils margent généralement à entre 30 et 40%. Donc la volonté du gouvernement, c'était de donner 10% de marge sur certains produits et puis d'espérer qu'il allait avoir un apaisement des relations commerciales sur tout le reste pour, ben, en gros, on vous donne 10% de plus, vous allez calmer le jeu et calmer la guerre des prix sur autre chose. Sauf que si on donne que ça, j'ai plusieurs fois pris la comparaison de l'éducation, notamment de l'éducation qu'on peut avoir avec nos enfants. Si à nos enfants, on leur donne que des récompenses sans donner une indication et donner une direction de ce qu'on attend d'eux, de comment ce qu'on veut que ça se passe, et si avant que ça se passe bien, on donne la récompense, bon, ben, au bout d'un moment, ça marche pas, quoi. Les gamins ou là, la grande surface bouffent la récompense et puis après, ils y repassent, quoi. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que les 10% de marge supplémentaire, vu qu'il n'y a pas eu de transparence d'obligatoire de mise dans les relations commerciales, ben, on sait pas où elle est passée. Donc, on revient au début des états généraux où la grande distribution nous dit, non, mais nous, on a joué le jeu, on n'a pas gardé cette marge pour nous, on l'a refilée à la transformation. Il faut que la transformation la redonne aux paysans. Et la transformation nous dit, non, c'est pas vrai. La distribution a continué la guerre des prix. Nous ont demandé toujours de baisser nos prix de vente. Donc, on n'a rien à vous redonner à vos paysans. Donc, qui dit vrai, qui dit faux, on est toujours dans la même langue de bois. Renforcement du médiateur, c'est le seul moyen un peu qu'ils ont trouvé pour essayer dans les interprofessions d'obliger les uns et les autres à essayer d'avancer collectivement à une meilleure répartition de valeur. Mais juste, je vais vous donner un exemple. On avait l'exemple de l'interprofession des viandes, de la viande bovine notamment, qui était complètement bloquée sur les indicateurs économiques parce que Bigard ne voulait pas, ni Bigard ni les grandes surfaces ne voulaient d'indicateurs économiques où on prenne en compte le revenu paysan à hauteur de 2 SMIC. La revendication de l'ensemble de la filière viande, c'était de dire dans les indicateurs économiques, on y inclut la rémunération paysanne, enfin, c'est quand même le minimum, c'est-à-dire qu'on travaille pas pour rien, et on inclut la rémunération paysanne à hauteur de 2 SMIC. Et il y a eu blocage complet autour de ces discussions-là. Et ils ont fait intervenir le médiateur, parce que l'État n'a pas voulu mettre de l'arbitrage public, mais ils ont consenti à avancer avec de la médiation. Mais sauf que de la médiation, ça reste de la médiation, et c'est quelqu'un qui est venu, en gros, dire, il faut vous entendre, et il s'est rien passé. On était juste avant le salon de l'agriculture, les choses ont été un petit peu apaisées, semble-t-il, avant le salon, mais c'était plus dans la com, parce qu'il fallait que ça se passe bien au salon de l'agriculture, et 15 jours après le salon, on a repris les débats et on est reparti de zéro et impossibilité de s'accorder sur des indicateurs économiques qui rémunèrent mieux les paysans. Donc aujourd'hui, tout est encore bloqué à l'interprofession des viandes. Il y a une réunion demain au ministère, convoquée par le ministre. Le ministre convoque la globalité de la filière viande bovine pour voir ce qui coince et essayer de taper un petit peu sur ceux qui veulent pas avancer, sauf qu'il a aucun pouvoir pour les contraindre. Et c'était vraiment le cœur de ce qu'on demandait, c'est-à-dire à justement avoir un petit peu de courage politique pour arriver à des contraintes. Nous, la revendication, c'était l'interdiction de la vente à perte, parce qu'aujourd'hui en France, la revente à perte est interdite, mais pas la vente à perte. Donc nous, il y a nombre de paysans qui vendent à perte, parce que il y a une pression de leur acheteur qui fait qu'ils peuvent pas vendre plus cher. Et c'est comment est-ce que dans les négociations qui se font entre les paysans et son transformateur ou la grande distribution, s'ils vendent directement à la grande distribution, qui est une notion de prix abusivement bas qui avait été un petit peu soulevée dans la loi mais sur laquelle ils sont pas du tout allés au bout, qui fasse que y a un seuil, un plancher en dessous duquel on puisse pas descendre. Et en dessous de ce plancher, on descend pas. Le prix, c'est nos coûts de production avec la rémunération paysanne. On descend pas en dessous. Et si le marché est meilleur et porteur, il y a des négociations qui s'engagent avec nos acheteurs. Et quand on a ce plancher-là, les négociations, j'allais dire, s'arrêtent et le prix, c'est celui-là. Et après, charge aux transformateurs, aux distributeurs de trouver des marchés qui leur permettent, eux, de faire leur marge. Sauf qu'aujourd'hui, la lecture qu'on en a, c'est que la marge qu'ils font, ils la font plus sur leur capacité à mettre de la pression sur les producteurs, plus que sur leur capacité à transformer, à élaborer des produits ou à chercher des marchés. Donc, on n'est pas du tout sur, sur des notions équilibrées de répartition de valeur ajoutée. Donc, il n'y a eu aucun rééquilibrage du rapport de force. Pas de contractualisation obligatoire, même si la contractualisation peut pas tout gérer. Il nous semblait que, notamment pour de la montée en gamme, pour avancer sur des labels rouges, sur des viandes avec des cahiers des charges, etc., on pouvait réfléchir à de la contractualisation. Ou dans cette contractualisation, on met des indicateurs de coûts de production avec de la rémunération paysanne, où on met des volumes et qu'on arrive à avancer bon an mal an sur un revenu paysan. Juste deux mots sur les indications géographiques, parce que on est quand même dans une zone où il y a des appellations géographiques fortes, et moi je viens également de la zone comté qui pourrait quelque part avoir un attrait à ces accords de libre-échange. Nous, on avait rencontré le président de l'INAO, donc le président de l'Institut National des Appellations d'Origine, qui voit dans ces accords de libre-échange une chance pour les filières sous signe de qualité d'aller exporter nos produits sur le continent américain. Sauf que il y a plusieurs risques. Il y a le risque de l'industrialisation, c'est-à-dire que si on veut exporter, il va falloir produire plus. Parce que ou alors on consomme plus ces produits-là et on les exporte uniquement, mais on sera plutôt dans le produire plus. Donc pour produire plus, il va falloir intensifier. Il va peut-être falloir revoir les cahiers des charges. Nous en zone comté, on a plutôt un cahier des charges assez restrictif pour justement essayer d'avoir un produit qui colle au terrain, qui répond aux attentes sociétales et qui rémunère les paysans. Donc si on fait le chemin inverse, il y a tous les risques de faire disparaître les paysans, parce que forcément le revenu sera, la rémunération sera certainement moins cohérente. Et après, il y a tout le risque d'abaisser les cahiers des charges et de dire typiquement on va pas limiter la productivité sur les hectares, on va pas limiter la productivité par actif. Et tous ces risques là ils sont à prendre en compte. Parce qu'après, on sera plus du tout dans des indications qui seront protégées, justement, comme elles le sont actuellement. Et après, il faut savoir que actuellement, ni les États-Unis ni le Canada ne reconnaissent nos AOP. Eux reconnaissent les marques, ils reconnaissent pas les indications géographiques. Pour eux, compter Roquefort, ça veut rien dire. C'est les marques qui comptent. Donc on n'est pas du tout dans le même mécanisme de pensée. La PAC, juste en introduction, dire que, donc comme je disais tout à l'heure, c'est le plus gros budget européen. C'est presque 40% encore aujourd'hui. Ça a été, sorti de la guerre, une politique agricole et alimentaire commune, une des premières politiques communes, dans l'objectif, plusieurs objectifs, répondre aux besoins de modernisation et de rémunération du monde paysan. Répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire de l'Europe à la sortie de la guerre. Et donc la PAC a été construite dans ces objectifs-là. Elle y a répondu, plus ou moins de manière satisfaisante, mais au bout d'un moment, le monde paysan, j'allais dire, avait évolué, même s'il y avait eu une disparition massive des paysans, il y avait quand même aussi une modernisation et un accès à un niveau de vie un peu plus normal, un peu plus en adéquation avec le reste de la population, j'allais dire. Et on avait aussi atteint les objectifs de souveraineté alimentaire au niveau du continent européen. Donc ensuite, la PAC aurait pu se transformer, aurait pu partir sur d'autres objectifs. Et elle a continué à travailler sur des objectifs de productivité, d'intensification. C'était plus pour forcément des objectifs de souveraineté alimentaire, mais on était sur des enjeux d'exportation et dans des enjeux d'être compétitifs sur un marché mondial. Donc on a continué à subventionner de plus en plus fortement une certaine partie de l'agriculture pour que cette agriculture ait des prix de vente de ses produits qui soient bas pour pouvoir être compétitif sur des marchés mondiaux. Et pour que les paysans soient rémunérés, en différence de ces prix qui n'étaient pas rémunérateurs, on leur donnait des subventions. Sauf que les subventions sont données majoritairement encore aujourd'hui sur les surfaces, sur les volumes. Et en gros, la PAC, elle encourage à une disparition du monde paysan. Plus un paysan a de foncier, a de terre, plus il exploite, plus il touche de la PAC. Et c'est pas plus il a d'actifs sur sa ferme, plus il crée d'emplois ou mieux il travaille en matière alimentaire ou environnementale, plus il touche. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et pour l'instant, de ce qui se dessine dans le projet de la future PAC, donc qui était au début PAC post-2020, le calendrier est quand même bien chamboulé. On est plutôt sur une PAC à l'horizon 2023 pour l'instant. Donc nous, typiquement, notre projet, déjà, c'est de remettre un A. Alors c'est assez symbolique, mais c'est de remettre un A à la PAC, de sortir d'une politique agricole commune et d'aller vers une politique agricole et alimentaire commune, revenir aux fondamentaux que l'agriculture est là pour nourrir et qu'elle n'est pas forcément là pour exporter, et pas que en tout cas, et que l'enjeu alimentaire doit être replacé au cœur de l'enjeu agricole. Donc les objectifs qu'on avait pu poser, nous, au niveau de la PAC 2020, c'était forcément assurer un revenu aux paysannes et aux paysans et permettre l'installation de paysannes et de paysans nombreux. Il faut savoir, dans les 10-15 ans à venir, il y a déjà un gros enjeu de renouvellement dans le monde paysan. Il y a quasiment 50% des paysans qui arrivent en retraite dans les 10-15 ans. Donc il y a déjà cet enjeu de renouvellement-là. Et ensuite, nous, il nous semble qu'il y a un enjeu d'en installer plus que ceux qui vont partir en retraite, si on veut répondre aux enjeux alimentaires et aux enjeux de dynamique territoriale, de ruralité, d'environnement et de dérèglement climatique. Donc répondre à la demande alimentaire, je l'ai déjà dit, et de transition agricole. Comment est-ce que la PAC est un levier pour faire évoluer le monde agricole? Et en gros, aujourd'hui, on est à un point A où c'est plus intéressant économiquement de s'agrandir et d'être intensif. Si ça semble cohérent de dire demain, il vaut mieux avoir plus d'emplois et avoir des leviers pour avancer vers des objectifs environnementaux et climatiques plus aboutis, eh bien, il faut que la PAC donne ces objectifs-là et oriente ses subventions dans cette direction-là. Parce que les paysans, j'allais dire, sont pas plus cons que les autres. Si on leur donne une subvention, quand t'as pas un revenu qui est fait par ton prix de ton produit et qu'on te donne une subvention pour pallier à cette différence-là, mais qu'on te la donne sur les surfaces, eh ben tu t'agrandis. Si on te la donne sur l'emploi, ou sur la transition environnementale, il y a de bonnes chances que ça se réoriente. Donc un des piliers pour nous d'une prochaine PAC et d'un revenu, c'est la maîtrise et la répartition des volumes de production. Moi, je viens d'une région où la régulation laitière, on sait ce que c'est. Enfin, moi, quand je me suis installé, il y avait déjà presque plus de quotas. Ils étaient en train de sauter. Mais mon père s'était installé sur une ferme avec des quotas laitiers. On avait réussi à garder un tissu de ferme relativement important. C'était pas complètement abouti, mais en tout cas, il y avait une régulation qui permettait ça. Et donc tout ça a été détricoté. On a réussi, nous, en zone comté, à conserver une régulation des volumes. C'est-à-dire que on a calqué les quotas comme ils étaient anciennement faits sur nos surfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, sur ma ferme, j'ai 70 hectares et j'ai un droit à produire qui est de X litres de lait par hectare, en fonction de mon quota historique que j'avais. Donc on est toujours dans une production qui est régulée en volume. C'est pas la seule raison pour laquelle on est bien payé en comté, mais c'est une des raisons. Donc à la conf, on porte l'objectif d'une répartition et d'une maîtrise des volumes de production, pas forcément avec des quotas, trouver des systèmes certainement plus souples, mais en tout cas d'imaginer que les États soient prêts en cas de crise, à réguler les volumes, à baisser les volumes et à faire que ce soit pas le dernier carrette qui gagne et que ce soit pas toujours celui qui a le plus de volume qui marche sur la tête des autres, quoi. Et juste un exemple, tant qu'on avait de la régulation laitière, les dépenses, notamment sur le lait de vache, les dépenses de la politique agricole commune sur les éleveurs laitiers étaient plus faibles que ce qu'elle est aujourd'hui en dérégulation totale. Elle était plus faible et aujourd'hui en plus, elle est beaucoup orientée vers le stockage de poules de lait au niveau européen. Et qui est-ce qui bénéficie à ces subventions de stockage de poules de lait? C'est même pas les paysans, c'est les industriels. L'année 2017, le plus gros bénéficiaire de la PAC au niveau français, c'est Lactalis, qui a touché 25 millions d'euros de la PAC parce qu'il a touché des aides au stockage de poules de lait. Donc d'un côté, on dérégule les productions, donc Lactalis encourage ses producteurs à produire plus. Ils produisent plus, ils sont payés moins, donc Lactalis s'engraisse sur leur dos déjà, et ensuite, ils bénéficient des subventions de la Commission européenne pour faire du stockage. Donc c'est double bénéfice pour lui, et c'est double peine pour les producteurs. Donc maîtrise, répartition, suppression de toutes les mesures de restitution aux exportations, c'est aussi en lien avec les accords de libre-échange, et révision du droit de la concurrence, parce que au niveau interne européen, il y a des choses complexes qui sont mises en place au niveau du droit de la concurrence qui empêche notamment la régulation et qui empêche d'avancer sur des lois comme on a pu le travailler au niveau de la loi Egalim, ce que je discutais au début, sur interdire à Laval d'acheter en dessous des coûts de revient. Ça, c'est par exemple anti-concurrentiel. Ou alors, c'est aussi anti-concurrentiel de mettre des clauses de localité dans les marchés publics, comme si on voulait, en restauration collective, essayer de manger local, eh ben, le droit de la concurrence européen nous y empêche, et il faut ouvrir les marchés publics, et à partir du moment où on ouvre, c'est en général le plus compétitif au niveau prix qui le remporte. Et c'est pas, on n'est pas dans la même direction. Alors, je vais passer tout ce qui est les objectifs. Je vais revenir sur ensuite les discussions qu'on peut avoir actuellement, parce que les discussions ont un petit peu évolué par rapport à ce qu'on attendait à ce que nous avait sorti la commission il y a quelques mois. Aujourd'hui, on est sur un projet de la commission qui met beaucoup en avant l'agriculture intelligente, l'agriculture de précision, la numérisation, la modernisation. Pour eux, c'est comme ça qu'on va sauver le monde agricole. C'est-à-dire que, on va nous aider à investir dans des outils innovants qui vont nous permettre de nous en sortir. Et, à aucun moment donné, les enjeux sociaux ne sont mis en avant dans le projet de la Commission européenne. Les parlementaires ont essayé par différents amendements de faire rentrer les intérêts sociaux, donc les intérêts des paysannes et des paysans, mais ça a tout été, enfin ils n'ont pas été majoritaires pour porter ça au niveau du Parlement européen. Et donc c'est à chaque fois ces enjeux d'agriculture intelligente, de numérisation, de libéralisation des marchés et le risque de renationalisation de la PAC qui est quand même relativement fort. Il y a une volonté de pas mal d'États de dire, on écrit un cadre commun, mais avec juste des objectifs communs, et ensuite, chaque État prend son enveloppe, et en gros, on fait ce qu'il en veut. Et pour nous, il y a un gros risque déjà de mettre à mal la construction européenne, de manière globale déjà, parce que vu que c'est la plus grosse politique budgétaire de l'Union européenne, si elle n'est pas commune, il y a quand même un sacré risque de recul par rapport à ça. Et ensuite, il y a un énorme risque de concurrence entre pays, de concurrence intra-européenne, qui va venir encore en surplus des concurrences qu'on peut avoir en extra-européen. Juste un exemple, sur les fruits et légumes, on porte au niveau de la CONF une revendication sur ce qu'on a appelé les prix minimums d'entrée, c'est-à-dire obliger à ce que des fruits et légumes qui rentrent en France soient vendus à minima à nos coûts de production, nous, sur le territoire français. Cette idée-là est venue pour contrer notamment les productions fruitières espagnoles qui sont réalisées avec des travailleurs pauvres dans les serres, avec des migrants mal payés ou pas payés dans les serres, exploités. Et ça leur permet d'arriver à des prix défiant toute concurrence sur le marché français. Et soit on entre dans cette idée-là de se dire, on va essayer d'être plus compétitif qu'eux, donc on va baisser nos coûts sociaux. Nous, c'est pas quelque chose qui va vraiment dans nos revendications, dans nos idées, et on est plus à dire comment est-ce qu'on arrive à avoir une Europe qui tire un petit peu tout ça vers le haut, qui tire les enjeux sociaux et les critères sociaux vers le haut. Et cette idée de prix minimum d'entrée, elle est venue de là, c'est-à-dire on impose un minimum pour rentrer sur le continent, enfin en France, et la différence, elle doit permettre dans ces pays-là d'harmoniser vers le haut les coûts sociaux. Alors, c'est relativement ambitieux. C'est déjà aussi anticoncurrentiel. Enfin, pour savoir, c'est quelque chose qui peut pas être mis en place comme ça pour revoir le droit de la concurrence européen. Mais en tout cas, c'est l'idée de dire l'harmonisation par le bas, elle profite à personne. Comment est-ce qu'on arrive à aller vers une harmonisation par le haut? On l'avait gagné sur quelque chose de très spécifique. C'était pas une harmonisation sociale, c'était une harmonisation environnementale. À un moment donné, la France avait activé ce qu'ils appelaient la clause de sauvegarde. On avait arrivé à interdire un pesticide sur le territoire français, sur cerises, qui s'appelait le diméthoate. Et par effet boule de neige, c'était Le Foll qui était ministre à ce moment-là. Le Foll avait, sur pression notamment de la Confédération paysanne, avait fait interdire à tous les pays qui exportaient de la cerise en France à traiter au diméthoate. Donc on était vraiment sur une harmonisation par le haut de ces normes environnementales. Et là, c'est la même idée, mais au niveau social. Voilà. Là, on est dans nos priorités. Ce qu'on est en train de, on est en train de discuter avec le ministère sur la position française de la PAC et voir ce que la France est prête à défendre comme socle commun au niveau européen et pour arriver à ramener des positions ambitieuses au niveau des paysans français. Nous, il y a plusieurs revendications, notamment sur le social. La première, c'est le deuxième tiret, c'est une dégressivité et un plafonnement des aides du premier et du second pilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plafonnement des aides. Un paysan peut toucher, autant de subventions européennes qu'il a d'hectares et il n'y a pas de plafonnement. La Commission européenne prévoit pour l'instant un plafonnement à 100 000 euros par actif. 100 000 euros par actif, je pense qu'en France, il y a quelques gros propriétaires fonciers qui seraient touchés, mais quasiment personne. Nous, la revendication, elle est quand même beaucoup plus ambitieuse que ça, c'est d'avoir un plafonnement à 45 000 euros par actif et une dégressivité à partir de 25 000 euros. C'est-à-dire que ça permettrait une redistribution des subventions et ce plafonnement, ensuite, doit servir à alimenter le second pilier, à alimenter la transition agricole, à alimenter une PAC qui réponde notamment aux enjeux environnementaux et climatiques. La seconde priorité, c'est le petit schéma en bleu, c'est le paiement redistributif. Alors pour aller assez vite, c'est les aides sur les premiers hectares. C'est quelque chose qui a été déjà activé dans cette PAC actuelle, mais à un niveau très minimaliste. C'est activé aujourd'hui sur on touche 50 euros de plus sur les 52 premiers hectares que sur les suivants. C'est-à-dire que tous les paysans ont une majoration sur leurs 52 premiers hectares. 52 premiers hectares, enfin 52 hectares, c'est à gros traits la moyenne des fermes françaises. Nous, cette aide-là sur les 52 premiers hectares, elle aurait dû passer à 75 euros la deuxième année et à 100 euros la troisième. Aujourd'hui, on est toujours à 50 parce que le Foll n'a pas eu le courage la deuxième année de l'activer sous pression de la FNSEA et Stéphane Travert n'a pas eu le courage non plus de l'activer sous toujours pression de la FNSEA. Donc aujourd'hui, on est toujours au minimum de ce qui avait été mis en place. Nous, ce qu'on revendique, c'est déjà avoir quelque chose par palier et de beaucoup plus ambitieux, plutôt que d'être juste en dessous de 52 hectares, c'est d'avoir des paliers 0, 10, 10, 20 et 20, 50, avec des rémunérations quand même beaucoup plus importantes, donc 300, 150 et 50, qui permettraient vraiment de flécher des primes plus fortes sur les premiers hectares où il y a forcément plus d'emplois. Donc ça permettrait sur des fermes petites et moyennes, d'avoir une revalorisation de la PAC et de donner une direction à la PAC plus sur l'emploi. Et la troisième mesure sur l'emploi, qui est encore un peu plus forte, j'allais dire, et un peu plus directive vers l'emploi, c'est le montant de 5000 euros par actif pour les deux premiers actifs et 2500 par actif pour les actifs suivants. Mais ça, ce serait pour les fermes qui n'émargent pas aux primes par hectare. C'est-à-dire des vraiment petites fermes qui sont sur des surfaces de 1, 2 hectares, voire moins, 4, 5 hectares. Des gens qui sont en maraîchage, en circuit court, en transformation, qui sont très peu aidés par la PAC. Et aujourd'hui, si on veut les aider, il faut pas cibler les surfaces, il faut cibler les actifs. Donc c'est quelque chose qui est activable, j'allais dire, au niveau européen, parce qu'ils ont une ligne qui s'appelle l'aide petit agriculteur. Donc on peut y faire rentrer, j'allais dire, un petit peu ce qu'on veut dedans, mais en tout cas, on a une définition à la conf des petites fermes, avec des niveaux de chiffre d'affaires, des niveaux de primes, des niveaux de surface également. Et à partir de là, si on arrive à avancer sur ce critère-là, ce serait de cibler ces fermes-là et qu'elles touchent 5000 euros par actif, ce qui est quand même pas négligeable, mais en tout cas qui donnerait vraiment une direction qui est tout autre que ce qui est actuellement. Donc ce qu'on défend aussi, ça c'est plus dans ce que je vous parlais auparavant, c'est les aides, ce qu'on appelle les aides premier pilier, c'est ce qui est actuellement des aides à l'hectare, qui vont rester majoritairement des aides à l'hectare, mais qu'on aimerait orienter vers les actifs. Il y a la PAC est divisée en deux piliers, le second pilier est plus un pilier de transition agricole, il rémunère aujourd'hui l'agriculture biologique. Il rémunère aujourd'hui ce qu'on appelle les mesures environnementales et climatiques, donc qui aident à la transition agricole. Il y a des aides à l'investissement et il y a aussi les aides montagne, les aides pour compenser les handicaps naturels. Donc pour nous déjà, premièrement, ce deuxième pilier, il doit être soutenu financièrement encore plus fortement que ce qu'il est. Pour l'instant, c'est quand même le parent pauvre de la PAC. La majeure partie des subventions sont dans le premier pilier. Essaie d'activer encore un petit peu plus la transition agricole au travers de ce second pilier avec des mesures qui soient vraiment incitatives pour aider les paysans à passer d'un point A à un point B. Ça peut être des mesures agri-environnementales comme elles existent actuellement. Ça peut être des investissements, mais qui soient pas, comme ils nous le vendent actuellement, sur du numérique, sur de la robotisation, mais qui soit sur l'investissement qui individuel ou collectif, mais qui soit sur des objectifs de montée en gamme, des objectifs de relocalisation, des objectifs de transformation peut-être, et des objectifs de recréer ce lien agriculture-alimentation qui a été beaucoup perdu. Et on a également, pour aider à la transition, toutes ce qu'on appelle les aides couplées, c'est-à-dire les aides aux filières viande bovine, aux filières viande ovine, aux fruits et légumes, pour arriver à soutenir le maintien de ces productions-là et à soutenir une certaine direction de ces filières-là. Aujourd'hui, typiquement, sur la filière viande bovine, on soutient les aides à la vache allaitante, c'est-à-dire plus on a de vaches allaitantes, plus on touche de primes couplées viande bovine. Nous, une des revendications à la conf, déjà, c'est de plutôt que de payer la subvention que sur les vaches, c'est de payer la subvention sur l'ensemble du troupeau allaitant et d'inciter comme ça les paysans à aller vers de l'engraissement. Parce qu'aujourd'hui, la filière viande bovine française s'est beaucoup spécialisée sur du naissage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de vaches allaitantes que ce qu'il y avait un temps. On fait du naissage en France, on envoie notamment en Italie pour engraisser, et ensuite ça revient en France ou ailleurs pour le consommer. Alors qu'on est complètement capable d'avoir une filière en France qui fasse du naissage, de l'engraissement et relocaliser cette production-là. Mais tant qu'on donne la direction de la subvention vers la vache, vu que le prix à la vente de la viande bovine est en dessous des niveaux de rémunération des paysannes et des paysans, ben le seul moyen de se rémunérer, c'est d'avoir plus de vaches allaitantes et de faire du naissage. Donc c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé pendant des années. Donc si on veut sortir de ça, c'est aussi les aides couplées qui peuvent permettre ça, qui peuvent permettre d'inciter à remettre de l'engraissement sur les fermes, comme elles doivent inciter aussi un remède de la prairie. Donc, comment est-ce qu'on a une aide couplée sur l'autonomie en prairie, sur l'autonomie en protéines, pour permettre aux paysans et donner un objectif d'autonomie alimentaire sur les fermes. Et le second pilier, voilà, il y a toujours tout ce qui est soutien au handicap naturel. Donc, ça s'appelle l'ICHN pour tout ce qui est montagne. Et ça s'appelle le POSEI pour tout ce qui est insularité. Ça, c'est pour les dom-toms. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et je pense qu'il y aura pas mal de questions après. On peut échanger sur les différents sujets. Je sais pas si on...